Sinzi. Aho imigozi impuza n'ubuto bwanjye yacikiye.
Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance.
Uwampa hakabaho ahantu hatuje, hatanyeganyezwa, hatavogerwa, h'ubusugi, hadakorwaho, hafashe, aho imizi habnye, ahantu h'irebero, ahinganji, ku isoko.
Alors, je ne vais pas tout vous lire. Voilà, il dit, il écrivait. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais né, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance, empli de souvenirs intacts.
Inzu naba naravukiyemo, igiti nk'umurinzi, papa yaba yarateye umunsi mvuka, nari kuba narabonye gikura. Ikigega cy'ubuto bwanjye cyuzuyemo kwibuka kudategwa.
De tel lieu n'existe pas, et c'est parce qu'il n'existe pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi. Il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Mes souvenirs me trahissent. L'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. Je regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies, au bord tout cassé, l'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes.
Je vais te donner un plan. Alors.
Aho hantu ni habaho. Kandi kuko hatabaho.
Je suis pas sur celui-là. Georges Perec. Mais non, je suis pas.
Bivukamo ikibazo. Bireka kuba ihamye.
On va chercher ça là. Tiens. Alors là, on est à Gambetta.
Ibyo umuntu yakwiyumvamo ntibibe ibye.
Alors, Georges Perec, tu m'as dit? Donc nous on est ici, le Rwanda il se trouve juste ici à la 89. Alors, Paris 19e,
Ngomba guhora mahagaragaza. Merekana.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, où est-il? Georges Perec est...
Ntabwo higeze haba ahanjye. Sinigeze mpahaba.
Tu vois quel numéro de case pour Georges Perec? Parce
que... Ngomba kuhakotanira.
382. Alors, 382, je crois que c'est... Je me colle en arrière. Petite pause, 30 secondes, 382.
Poétique de la consolation. Rwanda, Perec et moi. Par Yvette Jalad Maestroni et Franck Lilin. Sinzi
383. Attention.
Sinzi.
Donc il doit être quelque part là. Bon, on va voir où se trouve la case.
Aho imigozi impuza n'ubuto bwanje yaciki.
Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance.
Donc pour se rendre au columbarium, c'est ça? Pour se rendre au columbarium, de l'entrée Gambetta, on va tout droit et ensuite on a le bâtiment qui est exactement sur notre gauche. Arrivé à ce bâtiment, il y a un bâtiment central qui est le crématorium où on fait des crémations, où il y a des cérémonies aussi. Il y a la grande salle de la coupole qui peut contenir entre 200, 250 à 300 personnes. Et ensuite, autour du crématorium, il y a quatre bâtiments en L où se trouvent toutes les cases où on met les urnes et aussi Georges Pérec, qui est juste ici. Donc pour se repérer, il faut trouver les numéros, son numéro 382, donc il est ici. Georges Pérec est le seul qui est dans la case à avoir le nom Pérec, et Esther est elle là, c'est Binnenfeld. Donc ça doit être un membre de la famille, peut-être proche ou des cousins ou cousines qui n'ont pas le même nom de famille.
Je ne sais où se sont brisés les fils qui me rattachent à mon enfance. Comme tout le monde, ou presque, j'ai eu un père et une mère, un pot, un liquage, un hochet, et plus tard une bicyclette, que paraît-il, je n'enfourchais jamais sans pousser des hurlements de terreur à la seule idée qu'on allait vouloir relever, ou même enlever, les deux petites roues adjacentes qui assuraient ma stabilité. Comme tout le monde, j'ai tout oublié de mes premières années d'existence.
Au niveau de la case avec les pierres, il y a un stylo orange. Donc je ne sais pas s'il a été posé pour Georges Pérec, vu qu'il était écrivain, ou si c'est peut-être pour leur coutume de mettre les pierres et ils mettent toujours un petit présent. Là, ils ont mis un petit marron aussi. Des fois, les gens mettent un petit mot, ils mettent quelque chose. Donc peut-être aussi c'est pour Pérec. Donc les gens, ils mettent tout ça là pour Georges Pérec. Donc c'est bel hommage. Bel hommage, je trouve, oui. Alors, le petit carré, c'est écrit Fragile Spazio. Espace fragile. Mais je ne sais pas si c'est un rapport avec Georges Pérec, je ne sais pas.
Quitte cette case, Pérec. Espace exigu, étriqué, cagibi entassé au-dessus d'un autre, calculé au plus juste, inhabitable. L'air d'avril s'adoucit enfin. C'est le moment. Trop d'années que tu gis là. Tu prends la poussière. Allons rester entre nous. Mais pas ici. Dehors. Allons déambuler tout autour du Père Lachaise. Dépasser le théâtre de la colline. Contourner le cimetière. Longer uniquement les rues en pente pour le jeu et pour les collines. Ne me demande pas, en descendant rue de la Bidassoa vers la rue Vilain, oui, là où tu as vécu autrefois, la clope entre le majeur et l'annulaire, comme tu aimes le faire, pourquoi les collines m'obsèdent. Si on l'évoque, il se peut que ma voix se bloque dans une honte que rien n'explique. Je ne pourrais te dire alors comment mon père est mort. Disparu sur une colline, un lieu au nom chantant de Kivugiza. Altier, surplombant, des hauteurs de Ménilmontant, nous reprendrons tes quartiers, observerons plutôt Beaubourg, où nous nous sommes rencontrés. Tiens, voilà Jacques de Castilla.
Bonjour à vous et bienvenue dans le 20e, à Ménilmontant.
Donc je crois
je pense que l'on fait comme si on était aux disparus, c'est pas déjà... Mais le café a disparu aujourd'hui. Non, il a fermé tout simplement. Voilà. Mais de toute façon, dans notre balade, on rencontrera beaucoup d'autres cafés. Hein. Moïse, ça fait juste 43 ans qu'on est arrivé dans le 20e. Et c'est la colline de Ménilmontant. Hein. Avec une montagne, donc avec la forte pente de Ménilmontant. Alors, c'est pas tout à fait une colline, d'ailleurs, pour les puristes, c'est le début d'un plateau. Enfin, mais bon, enfin, Ménilmontant était un simple hameau de Belleville, hein, de la commune de Belleville. Comme il y avait une forte pente, bah, c'était Ménilmontant. Je crois bien connaître le quartier, comme je suis curieux, que j'aime bien flâner. J'aime bien accumuler de la doc aussi sur l'histoire du quartier. On a la possibilité, là, sur rue de Ménilmontant, il y a deux choses qui me plaisent, qui suis amateur de street art. Il y a une grande fresque sur un mur pignon de Jérôme Ménager, qui s'appelle « Les gars de Ménilmontant ». Il s'est inspiré de la ronde de Matisse, et on voit plusieurs hommes blancs qui font la ronde. Et puis plus bas, juste au débouché de la rue Jean-Lacroix, il y a une fresque intéressante aussi de Nebo, Serge Faury, qui était un peu un compagnon de route, le complice de Jérôme Ménager. Lui, c'est un homme noir, un homme un peu mystérieux, qui a une gabardine et un chapeau noir. Et là, Nemo, Serge Faury, avait eu la commande. Et on va voir le bonhomme noir qui fait du vélo sur un fil. C'est assez rigolo. Et je pense que ça aurait plu à Pérec. Bah, il a quand même écrit un petit vélo au fond de la cour, non ? Quelque chose comme ça. Est-ce que Pérec n'était pas un peu un équilibriste dans son genre ? Il n'aimait pas dans sa manière d'écrire, dans sa...
Donc, le quartier... Page 79.
Robert Bobert.
Le quartier. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier ? T'habites dans le quartier ? T'es du quartier ? T'as changé de quartier ? T'es dans quel quartier ? Ça a vraiment quelque chose d'amorphe, le quartier. Une manière de paroisse où, à strictement parler, le quart d'un arrondissement, le petit morceau de ville dépendant d'un commissariat de police. Pourquoi ne pas privilégier la dispersion ? Au lieu de vivre dans un lieu unique, alors Pérec a beaucoup déménagé, hein ? Au lieu de vivre dans un lieu unique, en cherchant vainement à s'y ressembler, pourquoi n'aurait-on pas éparpillé dans Paris 5 ou 6 chambres ? J'irai dormir à Denfert. J'écrirai à Place Voltaire, j'écouterai de la musique Place Clichy, je ferai l'amour à la poterne des Peupliers, je mangerai rue de la Tombissoire, je lirai près du parc Monceau, etc. Est-ce plus stupide, en fin de compte, que de mettre tous les marchands de meubles Faubourg Saint-Antoine, tous les marchands de verrerie rue du Paradis, tous les tailleurs rue du Sentier, tous les juifs rue des Rosiers, tous les étudiants au quartier latin, tous les éditeurs à Saint-Sulpice, tous les médecins de Harlem Street, tous les noirs à Harlem. Ce déménagement, ça a l'air d'être accidentel, mais en fait, c'est qu'il a mis beaucoup de temps à trouver sa place. Le dernier lieu où il habitait, c'est rue Linné. Voilà, où il se sentait bien, enfin je pense.
On va arriver dans la rue Jean-Lacroix, qui a cette particularité d'avoir 3 lieux de culte différents, séparés par quelques centaines de mètres. Là, nous sommes donc au pied d'un lieu de culte catholique. 100 mètres plus loin, on va passer au pied d'une synagogue. Et ensuite, un peu avant d'arriver à la rue de Belleville, il y a un temple protestant, beaucoup fréquenté par les Asiatiques qui sont implantés à Cathay. Moi, j'ai beaucoup aimé me tenir sur ces marches et observer tout ce qui se passait autour, comme Pérec, à la fois les choses, les gens, le développement de la ville. Et je pense que ça n'a pas déplu à Pérec d'être sur ce... Parce que c'est un peu un piédestal, enfin, on est un peu en hauteur. Et donc, voilà. Et comme il y a beaucoup de passages, place Maurice Chevalier, je crois que Pérec aurait bien aimé ça. Et puis par ailleurs, comme il aimait le cinéma, il s'est tourné vraiment beaucoup de films.
Alors on était des joyeux lurons, donc cinéma, jazz, tout ça.
Jacques Lederer.
C'était le début des Trente Glorieuses quand même. Mais l'histoire continuait son train quand même. Il y avait la fin de la guerre d'Indochine, donc c'était assez loin mais quand même. Donc, et puis il y a eu la guerre d'Algérie. Et ça nous a beaucoup marqué. Nous avions tiré le rideau sur les deux décennies précédentes, quoi. Donc, les années 40, on ne voulait pas en entendre parler. On avait tiré un trait, ce qui ne l'empêchait pas, lui, d'avoir des insomnies, des cauchemars. Il avait des cauchemars beaucoup plus que moi. Il se réveillait la nuit en sursaut, en voyant un soldat allemand au pied de son lit. Moi, vu l'expérience que j'avais de la fuite, de la retraite, donc j'avais moins peur. Mais lui non, donc il avait des sueurs froides. Il a eu la chance d'être protégé pendant la guerre, et d'un autre côté, en forçant le trait, ça a été sa malchance aussi. Il n'est pas allé au feu, en quelque sorte. Donc je force un peu le trait, hein, mais c'est vrai quand même, quoi. Moi, j'ai pas eu peur, quoi. Et donc, on voulait pas en parler. Donc, on n'en parlait jamais. On aurait pu aller ensemble faire un pèlerinage à Auschwitz. Jamais on y a fait.
Tu es, dans mon miroir fêlé, Pérec, mon semblable et mon frère. Comme toi, je l'ai entrevu par la lucarne, la petite lucarne qui crache encore, regarde, ses membres que rien ne ménage. Dans le paysage de mon enfance, à la verdure profonde, entre les longs eucalyptus et les cyprès solides, dans les méandres voluptueux, tango des collines, et dans les rivières couleur miel, dans les questions des camarades et des voisins, surnagent des membres gris, des corps, qui ont eu autrefois la couleur des miens. Tu n'as pas vu la grande nuit non plus, mais son ombre, c'est ton ombre. Entre les murs étroits, dans l'air lourd, cette histoire n'est ni la mienne, ni celle d'une autre. Elle nous en sert. Les mots en ont été raflés. Tu n'as pas fui dans les marécages. On n'a pas vu la bête en face. Depuis, tapis au plafond de ta chambre, elle se venge, elle reste et elle rôde. C'est la même qui guette lorsque la lumière se tamise, nous attaque et nous mord. Ce dibouk, esprit navrant, sans cesse renaissant, se revigore, gorge ouverte, se nourrit de nos angoisses. Il occupe nos maisons, usurpe la place du père disparu, fond sur nous la nuit venue et nous prive de repos. Nos souvenirs s'évaporent. On a honte en allant à l'école.
Mmh. Mmh. neza rugi nabaririmba n'indekwe wiriwe neza ruzihimbanwa bugabo mico myiza mu gitaramo nko bamukundiye guhiga ubucuti bwe n'intwari bwacumbitse ku bugabo wiriwe neza rugi nabaririmba n'indekwe wiriwe neza ruzihimbanwa bugabo
Tu restes étendu sur ta banquette étroite, les bras derrière la nuque, les genoux hauts. Tu regardes le plafond et tu en découvres les fissures, les écailles, les taches, les reliefs. Tu n'as envie de voir personne, ni de parler, ni de penser, ni de sortir, ni de bouger.
Nta muntu ushaka kubona, ntabwo ushaka kuvuga no gutekereza, ntabwo ushaka kugira aho ujya no kugira icyo ukora.
C'est un jour comme celui-ci, un peu plus tard, un peu plus tôt.
Umunsi nk'uyu udatunguwe, wumvise ari ikikubangamiye.
Que tu découvres sans surprise. Que quelque chose ne va pas.
Utingengeseye wavuga yuko utazi kubaho.
Que, pour parler sans précaution, tu ne sais pas vivre.
Kandi utazigera unabimenya.
Que tu ne sauras jamais. Tu t'es arrêté de parler et seul le silence t'a répondu. Mais ces mots, ces milliers, ces millions de mots qui se sont arrêtés dans ta gorge, les mots sans suite, les cris de joie, les mots d'amour, les rires idiots, quand donc les retrouveras-tu? Maintenant tu vis dans la terreur du silence. Mais n'es-tu pas le plus silencieux de tous?
Ben là, on ne va pas être très loin de l'allée Villain hein, qui s'est substituée à la rue Villain qui est là. Mais là, dans quelques mètres, on va arriver à la bibliothèque Couronne Naguib Faouz qui comporte une jolie fresque créée par une artiste belvilloise qui a un nom italien. Et donc cette fresque a été créée en 2009, au moment où la bibliothèque était complètement rénovée. Et l'artiste italienne donc, a conçu et réalisé une fresque assez originale. Là, sur un des bords, on voit la tête rigolote de Pérec avec sa barbe, ses cheveux ébouriffés, son sourire malicieux. Et puis l'artiste a imaginé des morceaux de puzzle et de lettres qui dansent un peu dans tous les sens. Et puis ben voilà, il y a des mots qui évoquent l'œuvre de Perrette. Espèce d'espace, autogramme, alors autogramme, gramme, ça je peux pas. Et puis l'indrome, ça devait être une des figures de style inventées par Oulipo, je pense. À droite, là, je lis Ram, je sais pas quoi, Anna. Et là, on est sur une des faces, et de l'autre côté, il y a palindrome. Palindrome, c'est cette particularité de la langue qui fait que l'on peut lire les mots de gauche à droite ou de droite à gauche, avec le même sens.
Il est certain que nous avions beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses distinctes. La famille de Georges était riche, mais pas lui. Pas lui. Moi, la mienne n'était pas riche du tout. Alors, on dormait à trois dans la même chambre, ou qui était en même temps l'atelier. Donc, ça nous a rapprochés. Il y a le fait qu'on avait fui le nazisme. Voilà. Donc. Et puis, nous lisions quand même beaucoup de choses que ne lisaient pas les autres, quoi. On lisait James Joyce, on lisait Kafka. Mais c'est lui qui m'a fait découvrir Malcolm Lowry et puis l'essentiel de la littérature américaine. Il me stupéfiait par sa connaissance de la culture anglo-saxonne. Il avait une boulimie de lecture immense. Il aimait les histoires, quand même. Mais enfin, on baignait là-dedans, puis il y avait le rapport avec le jazz aussi.
Oui, il faut que je reparte un petit peu en arrière. J'ai connu Perec en lisant un livre qui avait été publié en juin 1975, qui s'appelle W ou le souvenir d'enfance. Et c'est au moment où j'avais enfin obtenu l'autorisation de la Pologne d'aller faire un film là-bas, Pologne où mes parents étaient nés, une sorte de recherche d'identité. Et on avait des amis communs, sachant que j'aimais beaucoup Perec. On dit, mais on va organiser un repas. Et lui, on dit pourquoi je voulais le voir. Et lui, du coup, était très intéressé par le fait que j'aille en Pologne, parce que ses parents aussi étaient nés en Pologne. Moi, je voulais qu'on parle de son bouquin, lui voulait que parler de mon projet. J'ai fait le film, et on a fait une projection. Donc, la projection s'est faite en février 76, et à la fin de la projection, il est venu vers moi, il a éclaté en sanglots parce qu'il y avait quelque chose qui s'était remué en lui.
Sur ma table blanche, Beaubourg, une pile de livres, l'attente, l'oubli, poésie nègre et malgache, W ou le souvenir d'enfance. Tu me murmures, gêné. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Jusqu'à ma 12e année, à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassurée. Sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence me protégeaient. Mais de quoi me protégeait-elle, sinon précisément de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi, qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une sorte de défi. On n'avait pas à m'interroger sur cette question. Moi aussi, tu sais, j'ai un souvenir d'enfance. Il est arrivé ce jour-là. J'avais 5 ans, environ, je suppose. Je ne sais pas, je ne sais plus. Il est arrivé là-bas, mon père, sur une moto, acteur américain, jeune, James Dean, belle frime, rythmée. Quelques mots. Où est ta mère? Je crois. Un paquet de biscuits, rond, goût simple, peu de sucre, trace de lait. De ces biscuits qu'on trouve au bas des rayons des supermarchés, emballés en vrac, avec des mots dessus. Poussée de jambes sur la bécane, poussière de terre ocre, je ne l'ai plus jamais revue. Longtemps, je n'ai pas su où était la moto. Je me suis bien gardée d'y penser. Enfermée dans le statut inoffensif de l'inengendrée, fille de personne, me contentant de rechercher ces biscuits secs au bas des rayons des supermarchés, peu de sucre, traces de lait, emballés en vrac, avec des mots simples dessus.
Hier, il est arrivé quelque chose pendant qu'on faisait le journal mural. Un journal mural, c'est un journal qu'on accroche au mur du réfectoire et sur lequel on colle des articles qu'on fait nous-mêmes ou des chansons ou des dessins. On avait mis une grande table dans le parc avec des bancs et chacun faisait un dessin ou un article quand tout à coup, Max, notre moniteur, a crié « Papa !» très fort et on a tous levé la tête. Un monsieur, qu'une dame tenait par le bras, avançait vers nous à petits pas. Alors Max a couru vers lui et l'a embrassé. Et ils se sont mis à pleurer tous les trois, tout en continuant à s'embrasser. Alors une fille, à côté de moi, s'est mise aussi à pleurer, et d'autres aussi se sont mis à pleurer. C'était le père de Max qui rentrait de déportation. La nuit, Georges, qui dort dans la même tente que moi, s'est réveillé en sursaut en criant. Ce matin, on a appris qu'un enfant s'était sauvé pendant la nuit et ce sont des gendarmes qui l'ont retrouvé en pyjama à la gare. Ils l'ont ramené en disant au moniteur qu'il surveillait mal les enfants de la colonie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu. Mais là, c'est un enfant qui parle. C'est quelque chose que j'ai vu. Et tous les enfants, c'était en 45, qui attendaient, qui espéraient que les parents reviendraient, ce sont ceux-là qui ont passé une nuit terrible. Voilà.
Du côté d'Orléans, il y avait un camp qui était gardé par des gendarmes français. Ma mère et moi, on a eu la possibilité d'aller lui rendre visite. Et je me souviendrai évidemment toujours du visage qu'il montrait. C'est un visage extrêmement marqué, très grave. Je sentais bien qu'il se passait. J'avais quand même que 9 ans. Hein, donc. Et puis, il a donné son alliance à ma mère, que j'ai au doigt. Qui est le seul vestige que j'ai. Et on est resté donc dans le baraquement où il se trouvait, combien de temps ? 20 minutes peut-être. Après on est parti, puis je ne l'ai plus jamais revu. Voilà.
Mon enfance fait partie de ces choses dont je sais que je ne sais pas grand-chose. Elle est derrière moi. Pourtant, elle est le sol sur lequel j'ai grandi. Elle m'a appartenu, quelle que soit ma ténacité à affirmer qu'elle ne m'appartient plus. J'ai longtemps cherché à détourner ou à masquer ces évidences, m'enfermant dans le statut inoffensif de l'orphelin, de l'inengendré, du fils de personne. Mais l'enfance n'est ni nostalgie, ni terreur, ni paradis perdu, ni toison d'or, mais peut-être horizon, point de départ, coordonnées à partir desquelles les axes de ma vie pourront trouver leur sens. Même si je n'ai pour étayer mes souvenirs improbables que le secours de photos jaunies, de témoignages rares et de documents dérisoires, je n'ai pas d'autre choix que d'évoquer ce que trop longtemps j'ai nommé l'irrévocable, ce qui fut, ce qui s'arrêta, ce qui fut clôturé, ce qui fut sans doute pour aujourd'hui ne plus être, mais ce qui fut aussi pour que je sois encore.
Le lendemain, il m'a téléphoné, il m'a dit « j'aimerais qu'on dîne ensemble », on a donc dîné, et c'est là où il m'a dit « j'aimerais bien qu'un jour on fasse un film ensemble ». Mais un film dans lequel on se retrouvera tous les deux. Et donc, on a attendu, moi j'ai lu d'autres bouquins de lui, j'ai eu l'occasion de lui montrer un ou deux films que j'avais fait précédemment, et jusqu'au jour où j'ai appris que Ellis Island, qui est une île au large de Manhattan, venait d'ouvrir pour des visites. Et Ellis Island, c'est une petite île comme celle de la Statue de la Liberté. En mai 78, le film, on l'a tourné en 79. Alors moi, je tournais, et puis on se promène dans le musée, un guide qui expliquait les choses. Comme c'était la première année que c'était ouvert, les gens qui venaient, je les voyais, j'étais persuadé que ceux qui étaient là venaient parce que l'opéra avait émigré avant. Et j'en ai parlé au guide qui était jeune, qui a dit, je vais poser des questions. Il a dit, quels sont ceux qui ont des parents qui sont venus là, plus des trois quarts ont levé la main. Enfin, ils savaient que leurs parents étaient passés là, et ayant appris que ce lieu était ouvert au public, ils avaient envie d'aller voir. C'était la même curiosité que moi, quand j'allais en Pologne, j'avais envie de retrouver les rues, l'école, la boutique de mes grands-parents. On a toujours de la nostalgie des moments qu'on n'a pas connus.
Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. C'est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m'impliquent, comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu dépotoir où des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à la pelle. Ce qui pour moi se trouve ici, ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces, mais le contraire, quelque chose d'informe, à la limite du dissible, quelque chose que je peux nommer clôture ou scission ou coupure, et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif. Je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif, ce que ça me fait que d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien. Ce n'est pas un signe d'appartenance, Ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude, une certitude inquiète, derrière laquelle se profile une autre certitude, abstraite, lourde, insupportable, celle d'avoir été désigné comme juif, et parce que juif, victime, et de ne devoir la vie qu'au hasard et à l'exil.
C'est une photo, là. C'était pendant le montage de Nice Island. Donc, mon fils aîné faisait sa bar mitzvah, c'était en 80. Oui, tout début 80. Et donc, il est venu. Il y a autour de lui, il y avait un tas de gens à accent. Et à un moment donné, je le vois parler avec mon père. Or, mon père, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler très jeune, qui parlait le français avec un très fort accent. Et je le vois parler avec Pérec. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut se raconter ces deux-là? Parce que mon père n'avait jamais lu, non seulement Pérec, il lisait le journal comme tout le monde pour se tenir au courant de ce qui se passe en France et dans le monde. Mais avec Pérec, et c'est quand, lorsque j'ai vu la photo, que j'ai compris. Pérec était là, très heureux d'être là. Il y a un tas de photos, on le voit rire. Mais dans cette photo, il regarde très attentivement mon père. Et comme c'était un jour de fête, il avait à la main un verre de champagne. Et j'ai compris qu'en fait, ce qu'il écoutait de mon père, ce n'était pas ce qu'il disait, mais c'était son accent, l'accent dont il avait été privé, c'est l'accent de son père, dont il ne se souvenait pas. Et cette photo, quand je l'ai vue, d'un seul coup, ça m'a raconté tout ça. Et c'est quelque chose de très précieux, parce que c'était un ami très 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 proche, et puis c'était mon père, tous les deux ensemble.
Oui, alors là, nous sommes juste à la hauteur de l'ancienne petite ceinture et on va prendre l'escalier qui descendait sur la gare de Ménilmontant, qui a existé jusque dans les années, fin des années 50. Et donc les gens qui allaient à Ménilmontant, ils descendaient à cette gare ou bien ils montaient dans un train qui les emmenait à l'autre bout de Paris. Voilà, donc là on est... C'est vraiment l'escalier de l'époque. Là, on est sur un tronçon de l'ancienne petite ceinture qui était longtemps donc le domaine de la SNCF. Là, on va descendre carrément sur la voie ferrée. Là, sur le bord, il y a les quais en ciment autrefois de la petite ceinture sont devenus une allée en bois en quelque sorte, où les gens avec des bancs, où les gens peuvent venir s'asseoir, lire, et ça a pas mal de succès. C'est effectivement rare de pouvoir balader sur une voie ferrée sans craindre l'arrivée d'un train qui vous percute. Voilà, d'ailleurs, là, ce qui est amusant, c'est qu'on est sur un tronçon entre deux grands tunnels. Il y a un tunnel qui passe sous le début de la colline de Belleville et qui va jusqu'au but de Chaumont. Donc il y a plus d'un kilomètre. Par contre, de l'autre côté, c'est le tunnel qui conduit jusqu'à la rue de Bagnolet. Il y a une plaque qui commémore la bataille, une bataille au moment de la libération de Paris. Donc les FTP, francs-tireurs parisiens, ont bloqué un train d'Allemands. Ils les ont pris en tenaille. Il y a eu une fusillade terrible où les Allemands ont subi pas mal de pertes.
Je ne me serais jamais retrouvé à descendre un de ces chemins de terre ocre de la localité de Kivugiza s'il n'était le lieu où avait habité Théophile Kazungu, mon père. pour éviter que mon sol ne s'effondre. De hautes feuilles repues, des néfliers généreux le long des presbytères, des lantanas sucrés, des tulipiers du Gabon à l'odeur sombre et parfois d'impertinents oiseaux de paradis. Plantée dans ses fantaisies, l'image sans contour de mon père. C'est comme ça que je me suis retrouvée à Kivu Giza. La saison sèche approchait, mais des pluies brèves s'abattaient sans pardon, des lances sur ces passants qui n'avaient pas couru à temps pour trouver un refuge. Le soleil revenait vite, consolait les plus lents. Des vêtements et de la terre mouillée s'échappait une vapeur réconciliatrice. Consolider la mémoire. Reconstituer la colline. Éviter que le sol se dérobe. Atténuer les glissements de terrain. C'est à ce moment-là que je suis sortie de la route en macadam en direction de chez Théo Kazungu. Je me perdais. Je regardais les collines en face, calme. Au fond, Rebero. Ce que j'ai su ensuite sur mon père, dans une langue qui n'était plus mienne, quelques mots restent. Résister, grenade, mort le 24 avril, a infligé des pertes chez les méchants, 4 miliciens neutralisés.
Cette zone de Belleville, très, très vétuste, construite souvent par les ouvriers de brick et de broc à la fin du 19e, a été complètement rénovée dans les années 70. Et on a eu l'idée, sur ce qui était en bonne partie des terrains vagues sur lesquels les enfants venaient jouer, mais un peu dangereusement, on y a construit le parc de Belleville. Avant de pouvoir créer des allées qui sont à différents niveaux du parc, parce que ce parc est tout en dénivelé, en pente, il a fallu que les concepteurs du parc fassent injecter du béton parce que le sous-sol était d'anciennes carrières de gypse. Je pense à un vrai gruyère, des trous un peu partout, et je crois que pour le parc de Belleville, c'était un peu ce cas-là. Il a fallu un peu consolider les pentes de cette colline de Belleville pour qu'il n'y ait pas de glissement de terrain et que les promeneurs du parc de Belleville ne se cassent pas la figure.
Écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Voilà, ça résume tout son parcours. Pour moi, c'est une des pages les plus importantes de ce que Perrick a écrit.
Je m'appelle Jean-Marc, je suis au Père Lachaise, agent de surveillance de sécurité du Père Lachaise. Donc mon travail, c'est les inhumes, les exhumes, les mises en case au columbarium, ensuite accueillir le public, surtout accueillir le public pour les diriger vers différents endroits, le crématorium, le columbarium, la chapelle. Alors pour aller sur la scène du génocide du Rwanda, donc moi, je vais vous y emmener. Bon, le plan, il n'est pas compliqué. Il suffit de voir où on est. Donc, nous, on est ici. Le Rwanda, il se trouve juste ici, à la 89. Donc, il faut juste, lorsqu'on rentre, prendre sur la gauche. Et ensuite, à droite, on a juste le Rwanda. C'est stipulé. On la voit, la stèle, elle n'est pas loin. Elle est juste sur notre droite, sur la pelouse. En face, avec le jardin du souvenir. Vous voyez, c'est la première de l'allée. C'est la stèle commémorative du génocide du Rwanda. C'est bien celle-là. Qui a lieu en 1994. La stèle en elle-même, c'est pas une grande stèle. La stèle, elle est en pierre et il y a une plaque en granit, en marbre. En 1994, au Rwanda, plusieurs centaines de milliers de Tutsis ont été victimes d'un génocide. Les inscriptions sont sur une plaque de granit, de marbre, ouais, je dirais du granit. Donc la stèle, elle a été érigée en leur mémoire. C'est une stèle dédiée à leur mémoire.
Il s'immisce entre nous et le monde quelque chose qui manque, un remords. Les côtes hérissées de fils de fer barbelés, les enfants en rang, par ethnie, les marques sur leurs chemises nous empêchent encore de dormir. Poète mort jeune à qui je survis, nous ne sommes pas de la race des oiseaux tranquilles. Il s'immisce entre nous et le monde une absence, des mots qui n'ont pas été dits. Nous zigzagons entre les branches, des choses qu'on n'a pas vécues. Il s'immisce entre nous et le monde un hiatus que seul toi sais dire. Éperviers à la nuit tombée, aux aguets, nous remuons dans la pénombre une inquiétude entre tes tilleuls et mes flamboyants. Réminiscence de ce que nous n'avons pas vu, la terre pelée, les fleuves bourbiers, l'architecture du mépris. J'ai reçu de toi la découverte qu'il s'immisce entre nous et le monde une attente, que cessent les bruits des bottes au loin. Pour reposer l'enfant sur une mousse accueillante, sous l'érythrine protectrice des anciens rois blessés.
Quand on rencontre quelqu'un, c'est signe que l'on devait croiser son chemin. C'est signe que l'on va recevoir de lui quelque chose qui nous manquait. Il ne faut pas ignorer ces rencontres. Dans chacune d'elles est contenue la promesse d'une découverte. Il manque toujours quelque chose. Mais on ne sait pas toujours ce qui manque. Et on ne sait pas non plus ce qu'on va trouver. Oui, je dis, à un moment donné, sur les souvenirs, que les souvenirs savent tout de nos regrets, de nos remords. Et il y a une page qui est la plus proche de ce que j'ai vécu, que je peux vous lire, enfin vous en ferez ce que vous voulez, parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Je me souviens, je devais avoir 12 ans, m'être levé une nuit pour prendre un verre d'eau au robinet de la cuisine. Sur le buffet de la salle à manger, dans une timbale en aluminium, une bougie brûlait. Je l'ai cru oubliée, et pensant bien faire, je l'ai éteinte. Je savais pourtant qu'elle avait été allumée pour commémorer le jour anniversaire de la mort du père et du jeune frère de ma mère, jour présumé puisqu'ils avaient été déportés. Le matin, ma mère m'a seulement dit que je n'aurais pas dû l'éteindre. J'aurais préféré être puni. Je revois encore son regard étonné et sa tristesse. Je revois encore tous les gestes avec une extraordinaire précision. Elle va prendre la grosse boîte d'allumettes, toujours placée près de la cuisinière. Elle se tient debout, presque appuyée contre le buffet, me tournant le dos. Elle se penche sur la bougie. Elle l'entoure d'une sorte de protection chaleureuse. Le mur s'éclaire de la flamme vacillante. Ma mère reste un long moment près d'elle. Elle porte un gilet de laine beige tricoté à la main, au bas duquel apparaissent deux étroites bandes de tissu à fleurs imprimées provenant du nœud de son tablier. Je crois qu'elle pleurait. C'est ce jour-là que j'ai réellement éprouvé le deuil de mon grand-père et de mon oncle maternel, que pourtant je n'avais pas connu. Voilà, c'est une page, c'est peut-être la page à laquelle je tiens le plus, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'avais 12 ans. Voilà. Il y a des souvenirs d'enfance qu'on sait qu'on va emmener jusqu'au bout.
Pour mes frères, ma famille, ma sœur, mes familles et mes amis. Avec Robert Bobert, Jacques Lederer, Jacques de Castilla, Jean-Marc Ellis. Voix Saskia Zaslavski, chant Jean-Claude Cazé. Prise de son, Michael Simon. Mixage, Pierre-Henri. Traduction, Nido Huera. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron. Poétique de la consolation, Rwanda, Perec et moi. Une émission d'Yvette Jalad-Maestroni, réalisé par Franck Lilin.